Il est 8h sur Radio Panique. Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube en ce 15 décembre 2021. Et je suis ravie d'être en compagnie de mes deux invités du jour. Il s'agit de Catherine Bubinder et Marie-Thérèse Kounen. Catherine Bubinder, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour parler du livre « L'audace de vivre » qui retrace l'histoire de votre grand-mère et que vous avez écrit. Donc c'est une autobiographie mais qui a été mise en page par vous-même. Et Marie-Thérèse Kounen, vous êtes chercheuse associée au CAROP, le Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire, qui a édité ce livre. Bienvenue à toutes les deux.
Bonjour, merci beaucoup. Je dois préciser quelques petites choses quand même, c'est que c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vraiment le récit de ma grand-mère qu'elle a fait elle-même, tout à fait elle-même en fait, dans un enregistreur. Donc elle s'enregistrait le soir, tous les soirs en fait, à un certain moment. C'est mon père qui lui avait offert un enregistreur pour son anniversaire, et donc tous les soirs, elle n'était pas capable d'utiliser l'enregistreur, elle lui devait préparer les boutons à l'avance, elle poussait sur start et elle y allait, elle racontait toute son histoire, et puis quand la cassette était finie, elle s'arrêtait, et il fallait que le lendemain, il revienne remettre une autre cassette. Donc c'est vraiment comme ça qu'elle a raconté toute sa vie en fait, et c'est assez fascinant parce que elle ne fait pas de retour en arrière, elle se trompe pas, elle trace et toute son histoire était dans sa tête telle quelle en fait. Et moi, ce que j'ai fait, au bout d'un certain temps, quelques années après en fait, je me suis retrouvée avec une dizaine de cassettes, mon héritage en fait de ma grand-mère et plutôt que de les écouter comme ça, je me suis dit autant les retranscrire tout de suite en fait. Et c'est comme ça que je m'y suis mise, je les ai retranscrites. Moi, j'avais 25 ans et je trouvais que c'était magnifique en fait déjà à ce moment-là, puisque j'en ai fait un espèce de petit syllabus familial. J'ai mis des photos et tout ça. Mais bon, je restais tout à fait modeste en me disant, c'est une histoire familiale et on le garde. Mais voilà comment ça s'est passé. Donc moi, c'est pas moi qui ai écrit. Moi, je peux pas raconter à sa place ce qu'elle a écrit, parce qu'elle raconte très très bien. Elle a vraiment des talents de conteuse. Mais ce que j'ai fait, c'est recadrer ce témoignage par une série de petits commentaires, en fait, par des photos, etc., qui effectivement, je pense, était nécessaire pour le rendre accessible à tout le monde.
Et donc, c'est vrai, comme vous le précisez, que c'est un véritable travail de mémoire, justement, d'aller permettre justement à votre grand-mère d'enregistrer toute sa vie, de faire ce récit. Et puis, vous l'aviez transmis déjà, je pense, à José Gotovitch, qui est un éminent professeur de l'ULB, que j'ai eu le plaisir d'avoir en tant que professeur, qui l'a trouvé merveilleux aussi, et qui lui aussi avait fait un grand travail de sauvegarde de la mémoire, de l'expérience des Juifs aussi après la guerre 40-45. Et donc, on n'a pas précisé que votre grand-mère, c'était une immigrée juive bessarabienne, militante communiste en Belgique. Et donc, c'est ça qui fait tout l'intérêt, on va dire, de récupérer son histoire et de la lire. Et comme vous le disiez, le livre, c'est pas juste une suite de paroles de votre grand-mère. Vous l'avez richement illustré, aussi bien en photo qu'en petite explication complémentaire à ce qu'elle pouvait dire. Et donc, c'est un bel ouvrage.
Oui, en fait, José l'avait déjà eu à l'époque, tout de suite, et il l'avait déjà proposé en fait à l'Université des Femmes à l'époque, parce qu'il m'a montré une lettre qu'il avait écrite, donc il avait vraiment fait une démarche, il avait vraiment été impressionné par ce document, et puis ils n'ont pas donné de suite, et moi je crois que j'étais pas encore capable à l'époque non plus de voir l'intérêt, et J'ai mis 30 ans, en fait, avant d'être capable de comprendre que ce document était intéressant, même si, c'est vrai, on s'était dit qu'on allait le publier un jour, mais en plus, comme je l'avais tapé à la machine encore, je me disais, bon, ben, il faudra le digitaliser, et on remettait à plus tard. Et bon, voilà, donc il a vraiment fallu que j'aie le temps de reprendre tout ça. Et voilà, c'était le moment, grâce au Carop aussi, évidemment, que José m'a indiqué. Mais oui, donc José travaillait surtout sur l'histoire des communistes, en fait, en Belgique. Et je pense que c'est ça qu'il a trouvé intéressant, c'est que ma grand-mère était vraiment une militante de base. Donc c'est pas quelqu'un qui a réfléchi beaucoup et qui était dans les meneurs de ce mouvement, mais elle le suivait et elle était vraiment très très au fait de tout ce qui se passait. Et donc je pense que c'est ça qui était intéressant aux yeux de José aussi, c'est d'avoir vraiment cette illustration du point de vue de Madame Tout-le-Monde, enfin, qui n'était sûrement pas Madame Tout-le-Monde, c'est vrai, c'était assez exceptionnel quand même son destin, mais elle était extrêmement modeste et extrêmement... oui, c'est ça, modeste, elle n'osait sans doute pas prendre la parole, etc. Donc, mais elle était terriblement active. Et alors elle s'occupait aussi évidemment de sa vie à elle, avec son mari d'abord, ses enfants, trouver un travail, etc. Donc c'est de ça qu'elle parle, de son besoin aussi de militer sans doute, de retrouver des gens, d'être ensemble, d'agir. Donc c'est pas rien, mais elle parle de son point de vue tout à fait personnel. De ses idées à elle qui étaient bien, bien affirmées, en fait. Elle ne parle pas au nom d'un parti ou de quoi que ce soit. Et c'est sans doute pour ça que moi, je ne comprenais pas à ce moment-là en quoi c'était si intéressant, mais je pense que José, lui l'avait bien compris.
Et le Carop aussi, je pense, Marie-Thérèse.
Eh bien, moi, je n'ai pas lu le manuscrit avant qu'il ne soit édité. Donc, j'ai reçu la demande par un coup de téléphone, en demandant, il y a le manuscrit de ma grand-mère, j'ai une année devant moi, est-ce que le Carop serait intéressé? C'est José qui m'envoie chez vous. Et je dis, ben oui, le Carop fait ça. Le Carop publie une collection qui s'appelle Carnet, les Carnets du Carop, et depuis 1980, depuis que le Carop existe, on s'est toujours préoccupé de la mémoire, soit on la collecte nous-mêmes, soit on laisse la parole aux gens. Et donc, c'est pas la première fois que l'on donne ainsi l'occasion à quelqu'un de publier un récit. Et notre seul souci, c'est que ce récit s'inscrit dans l'histoire sociale, dans une histoire collective. Donc, l'histoire individuelle n'est intéressante, en fait, que par le lien qu'on peut faire ou qui est fait par la personne par rapport à l'histoire, à grande histoire, mais dans lequel, comme tu dis, les militants de base n'ont pas beaucoup de place, n'ont pas beaucoup de parole, n'ont pas beaucoup d'espace, n'ont pas beaucoup de visibilité. Et donc, on a travaillé ainsi avec une migrante italienne qui était femme à journée, et puis qui était et qui a raconté son histoire, et l'histoire de sa famille, et l'histoire de son mari, et comment est-ce qu'elle est progressivement s'est insérée dans la société ici en Belgique, elle est devenue militante dans les mouvements d'éducation comme Vie Féminine, les équipes populaires, etc. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui nous intéresse quand la trajectoire de la personne est une trajectoire qui rejoint finalement l'engagement social. Et dans ce récit-ci, moi, quand quand on me dit José trouve le manuscrit très bien, moi je dis bon, le manuscrit est très bien, il n'y a pas de souci. Ceci dit, cette histoire, elle est passionnante. Et c'est beaucoup plus que l'engagement d'une femme comme engagée communiste. Elle a d'abord un parcours d'immigration dans l'entre-deux-guerres qui est très rare de connaître du point de vue des femmes. Comment est-ce qu'elles sont venues jusqu'ici? Comment est-ce qu'elles ont trouvé du travail? Quel réseau elles ont réussi à mobiliser? Elle a une énergie, cette dame. C'est incroyable. Puis elle s'engage comme communiste dans le Parti communiste qui commence à émerger dans les années 30 en Belgique. Elle est militante, mais elle est militante convaincue. Et pour elle, c'est vraiment le changement social auquel elle aspire. Et puis, à la guerre, et elle s'engage dans la résistance. Et là, elle rejoint évidemment des réseaux. et des réseaux communistes qui ont été fort frappés et fort poursuivis par l'occupant. Elle va dans les camps, elle est dans les camps. Bon, ça c'était un passage très dur, évidemment. Ces témoignages sont forts. Chaque témoignage là reste une marque, une trace et un devoir de mémoire quelque part. Mais quand elle revient, et là je crois que c'est une des premières fois que j'ai vraiment rencontré quelle était la situation de ces personnes, ces prisonniers et prisonnières qui avaient échappé à l'extermination, ils reviennent. Comment est-ce que ça s'est fait pour eux? Ce retour est une honte, en fait, de notre société, de ce manque d'accueil, de ce manque de compréhension. Et vraiment, je trouve qu'elle a encore de l'énergie à ce moment-là pour se reconstruire, reconstruire sa famille, reconstruire sa vie. C'est vraiment un récit, je trouve, multidimensionnel et qui est vraiment un témoignage aussi de ce que la barbarie a fait. Et alors, parce qu'on n'est pas spécialiste de toute cette histoire, au CAROP, on est plutôt histoire sociale belgique, hein, on s'en cache pas. On a quand même fait appel un peu à ces experts de la mémoire. Et donc là, je dois avouer que les territoires de la mémoire nous ont vraiment bien aidés pour bien comprendre toutes les institutions, tous les enjeux, toutes les règles enfin, qui fonctionnaient. Et ils ont relu le manuscrit, ils nous ont vraiment apporté leur appui pour l'édition de ce récit. Donc, toute seule, je crois, on n'aurait peut-être pas su avoir un ouvrage de telle qualité, qui est juste sur le plan historique. Et voilà. Et donc, nous, on est très, très fiers au CAROP de l'avoir publié. Et on est aussi... Ça s'inscrit vraiment dans notre projet de travail sur la mémoire et d'histoire, l'histoire sociale en général.
Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est justement que ça va bien au-delà d'une autobiographie, parce qu'on a quand même régulièrement l'occasion de lire les récits que les gens font de leur propre vie, mais il n'y a pas cette mise en contexte historique qui est faite justement par vous-même, Catherine, et par cet accompagnement par le CAROP, qui met vraiment en perspective et qui fait le lien aussi bien avec l'histoire du moment, mais avec, on comprend aussi, en lisant cet ouvrage, on comprend aussi mieux quel peut être le parcours des personnes immigrées actuellement aussi, comment ils peuvent vivre et quand elle raconte justement dans quelles conditions elle a vécu tout au long de son parcours migratoire, on se dit oui, c'est ça qu'ils vivent aussi les personnes demandeuses d'asile sans papier ici aussi. Mais j'aimerais bien qu'on puisse peut-être revenir plus en détail sur l'histoire et justement mais d'où elle est arrivée, où a commencé ce parcours de Leïka, donc qui est votre grand-mère, qui est née au début du XXe siècle. Donc, est-ce que vous pouvez retracer un petit peu?
Vous m'avez un peu sollicité juste avant, si vous voulez bien, parce que je pense que une des difficultés aussi pour moi d'écrire ce bouquin. De m'y plonger, c'est parce que il y a un enjeu aujourd'hui, oui, comme vous disiez, voilà, je voulais intervenir par rapport à ce que vous disiez il y a quelques minutes. Donc, parce que c'est vrai que moi, je suis encore dans une association juive qui est héritière de cette mémoire, et donc la question, c'était effectivement de pouvoir reprendre place aussi dans cette association, dans cette, comme vous disiez, c'est un travail de mémoire, et donc y a un intérêt aussi pour moi à comprendre ce qui s'est passé à l'époque, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui aussi dans cette association. Et donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail de mémoire qui est super important, que moi j'ai fait en tout cas en travaillant le bouquin. Donc c'est vrai qu'il y a, je ne savais pas qu'il y avait eu un tel travail par rapport à la mémoire au sein même du CAROP, puisque moi en tout cas j'ai fait ce travail de mémoire, enfin, et le CAROP m'a donné la possibilité effectivement, parce que vous m'avez très très bien relu, par contre ça je l'ai vraiment senti. Voilà, mais donc c'est vrai qu'il y a, peut-être on en reparlera après, mais il y a tout un travail qui est important pour moi aujourd'hui. Ça me permet de me situer mieux aujourd'hui dans ce que j'ai envie de, dans ce que je suis en fait. C'est un véritable travail de mémoire pour moi d'avoir fait ça. Voilà. Bon, alors, si vous voulez qu'on recommence le début de l'histoire de ma grand-mère. Mais oui, donc elle est née en 1906. À Kishinev, c'est-à-dire à Chișinău, aujourd'hui en Moldavie. Et donc, ça veut dire qu'elle appartenait à la Bessarabie, puisqu'à l'époque, entre 1812 et 1917, cette partie-là était sous domination, gouvernée en tout cas par la Russie. Et donc, et s'appelait Bessarabie. Après 1917, alors oui, c'est compliqué de revenir à toute cette histoire. Ok.
C'est l'histoire de l'Europe aussi. Hein.
Ouais, c'est compliqué.
Elle a traversé l'Europe en fait.
Elle a traversé l'Europe, bon, mais. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans toutes ces histoires de Bessarabie, ça va être compliqué.
Mais. Sa motivation principale de migrer, c'est ça en fait l'intérêt. C'est qu'elle aurait pu rester là où elle est, puisque. Mais en fait, elle a une motivation forte qui est la répression qu'elle vit dans, et le manque d'issue qu'elle voit dans sa vie en restant sur place.
Oui, en fait, c'est ça. Il y a de l'antisémitisme. Alors, c'est compliqué, parce que, donc en 1917, la Bessarabie a été reprise par la Roumanie, et donc elle, en tant que juive, et il y avait de l'antisémitisme, mais il y avait déjà de l'antisémitisme chez les Russes aussi, puisqu'on a parlé des pogroms, on les connaît, les pogroms qu'il y avait eu à Kishinev. Pour les juifs communistes, en tout cas, parce qu'elle était déjà communiste à l'époque, passer du côté non seulement elle était communiste mais en plus les Russes elle parlait russe et pas roumain, alors que les Moldaves parlaient essentiellement roumain aussi, mais donc elle, quand la Bessarabie a été annexée par la Roumanie, elle représentait encore les Russes, elle représentait le judaïsme et elle représentait aussi cette inspiration communiste. Trois raisons pour lesquelles être en Roumanie à l'époque, c'était pas mieux que d'être sous le régime des Russes. Et donc, les Juifs étaient victimes de numerus clausus, etc. Et donc, ils émigraient en réalité. Alors, elle est exceptionnelle dans cette immigration parce que elle immigre. Elle ne veut pas faire des. Son idée n'est pas de faire des études. Elle n'est pas venue pour étudier en Belgique, mais elle est venue parce qu'elle était effectivement recherchée pour ses activités militantes communistes, quoi. Puisqu'elle s'était déjà engagée, elle faisait un tas de trucs, l'alphabétisation, distribuer des tracts, etc. Elle s'était déjà engagée en Bessarabie et elle était recherchée pour ses activités politiques. C'est dans ce cadre-là qu'elle est arrivée en Belgique. D'abord à Paris, oui. Et puis à Bruxelles.
À Paris. Et alors, elle doit trouver du travail, évidemment. Et donc, elle va devenir, elle va se former très rapidement sur le tas pour fabriquer des chaussures. Donc, elle va vraiment développer toute un petit artisanat.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est surtout son mari. En fait, ouais. Son mari a fait des études à Bruxelles, dans une école technique. Elle fait tout ce qu'elle peut, en fait, tout ce qu'elle trouve. Elle est tailleuse, surtout. Fourreuse, c'est des petits artisanats. C'est des entreprises familiales, en réalité, ou familiales où il y a quelques ouvriers. Donc, c'est vrai que c'est exceptionnel, en fait, comme immigration en Belgique, puisque ces immigrés, donc c'est juste dans les années, fin des années 20, ah, début des années 30, il y avait beaucoup de travail jusque-là, en fait, en Belgique. Il y avait de la place pour l'immigration, mais à partir de 29, en fait, il y a une crise du travail. Mais de toute façon,
les immigrés juifs, c'est exceptionnel puisqu'ils viennent pour rester en Belgique. Ils ouvrent des petits artisanats, etc. Ils vont pas dans les entreprises où ils peuvent dans les usines en fait. Ils travaillent pas dans les usines. Donc c'est une immigration artisanale avec des entreprises d'une ou deux personnes. Et donc ils sont un petit peu en marge quand même du monde ouvrier, même s'ils sont communistes, ils se disent prolétariens évidemment. Et donc effectivement. Elle parle de tout ça, elle parle vraiment de la manière dont ils montent des ateliers, dont ils travaillent. C'est assez gai comme ambiance, en fait. Ils chantent, mais non, ils ne vont plus avoir du travail tout le temps non plus. Il va y avoir des grosses périodes de chômage, comme ils disent, et c'est quand même pas facile. Bon, en plus, il faut s'habiller, il faut se loger, ils vont avoir des enfants, donc c'est pas facile non plus.
Et donc, sur l'entre-deux-guerres, c'est un témoignage très intéressant, parce que, en fait, ces petits ateliers de fourreurs, elles fabriquent des tiges de chaussures. Donc, ce sont de la sous-traitance de sociétés de chaussures, en fait. Et c'est très caractéristique du milieu professionnel juif, sur Bruxelles, en tout cas. Anvers, ils étaient plutôt diamantaires, mais et tailleurs de diamants. Mais à Bruxelles, c'est beaucoup de fourreurs, c'est beaucoup de chapeliers, c'est du textile. Enfin, c'est des ateliers de tailleurs. Et alors, j'étais assez impressionnée de voir que c'était dans la chaussure qu'elles avaient trouvé des débouchés. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, il y avait des entreprises de fabrication de chaussures. Donc, elles faisaient des petites pièces qui venait après être assemblé à l'usine. Et donc c'est un beau témoignage de l'entre-deux-guerres sur le travail à Bruxelles en fait. C'est assez intéressant.
Et avant qu'elle arrive en Belgique, avant qu'elle commence son parcours migratoire, moi ce qui m'a beaucoup amusée aussi, c'est comment elle raconte toute cette période où elle aidait son papa qui était tailleur pour les théâtres et l'opéra, je pense.
Jean Bessarabi, du
coup. Voilà. Ouais, et donc toute cette partie-là montre aussi la vivacité qu'elle avait aussi, qu'on la surnommait, je pense, à cette époque-là, puce, et qu'elle a toujours eu des surnoms aussi. Les gens ont toujours, lui ont toujours donné des surnoms qui montraient sa vivacité de vie et son enthousiasme aussi pour...
Oui, tout à fait. C'est étonnant ce témoignage en Bessarabie, parce que c'est des images qu'on n'a plus. Et, bon, alors aussi, Elle c'est une conteuse, elle raconte des histoires un peu féeriques, un peu, qui est très exotique pour nous, en fait. Mais des histoires, elle fréquente des voleurs, en fait, qui s'organisent pour faire une redistribution, finalement, des biens. Et c'est vrai qu'elle raconte ça de manière très, très, très imagée et...
Et d'ailleurs, cette rencontre, quand on vole, quand des voleurs prennent le pantalon d'un de ses amis et puis qu'elle va dire « c'est pas juste, vous pouvez pas voler le seul pantalon d'un travailleur, comment il va faire pour aller travailler ?»
Avec une morale très très forte.
Oui, tout à fait.
Et très, en même temps très personnelle, en même temps très forte. Et en même temps très communautaire, puisqu'elle n'est jamais seule, elle est toujours avec des gens en fait, avec une communauté.
Et ça, elle le montre aussi quand elle raconte comment ils vivaient ici en Belgique, avec cette maison qui était toujours ouverte, même s'ils habitaient dans une seule pièce, ils accueillaient tout le monde, il y avait toujours à un moment, elle dit, je sais plus, j'achète une demi-livre de café tous les deux jours, ou quelque chose comme ça, enfin je sais plus la quantité, mais qui montre que l'accueil des autres était super...
Tout à fait. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est une vie complètement collective, en fait. Ils sont toute une bande, en fait, tout le temps. Il y a des gens qui sortent de partout. Et elle est tout le temps dans la communauté, au travail. Bon, c'est vrai qu'elle a la cellule familiale, mais même pour elle, d'ailleurs, en tant que féministe, je me dis qu'elle était vraiment féministe, parce que son but, c'était pas du tout d'être une femme au foyer, comme à un certain moment veut la contraindre son mari. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le groupe, c'est la vie, c'est la politique, en fait, c'est l'engagement dans la société, c'est aider les autres, c'est se réaliser avec les autres. Ça c'est vrai. Toute cette vie communautaire est vraiment fondamentale et militante aussi.
Et à propos de ça, je pense qu'il y a un moment où aussi où elle explique que son mari, ben, il n'était pas souvent là, il participait lui-même à plein de réunions, et à un moment elle dit, ben, si tu participes aussi à, au travail qu'il y a à faire à la maison, moi aussi je peux trouver des réunions et,
tout à fait.
Et y aller. Et donc j'ai trouvé aussi que c'était un beau témoignage justement de femme aussi, qui était justement entre sa famille, la militance, et qui était forte, quoi, aussi bien quand elle était encore toute jeune qu'elle a failli se faire violer dans un bar par un vieux monsieur qu'elle a envoyé balader assez vivement, que aussi dans sa vie de couple qui n'était pas toujours non plus formidable.
Oui.
Enfin, je veux dire qu'il y avait des histoires parallèles, on va dire.
Oui, tout à fait.
Moi, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles c'est édité aussi. Enfin, je dois avouer que donner la parole aux femmes... Surtout quand vous voyez le récit de l'entre-deux-guerres, et même de la guerre, et même de l'après-guerre, je trouve qu'on voit bien la condition, les contraintes dans lesquelles elles sont, et puis les stratégies qu'elles développent pour quand même s'affirmer et pouvoir mener le projet qu'elles ont envie de mener. C'est de la négociation. Parfois, c'est pas de la négociation. Parfois, elle décide toute seule comment elle doit fonctionner. Mais ceci dit, je crois que c'est ça aussi la richesse de ce parcours de vie. C'est donner la parole à quelqu'un qui finalement est une femme qui a une place, qui ne revendique pas une place dans la société, mais qui revendique de faire son chemin. Et ce chemin-là, il méritait vraiment d'être mis sur papier.
Oui, je me suis demandé s'il était représentatif de son milieu, en fait, ou bien si c'était vraiment elle qui était aussi indépendante d'esprit, ça je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est clair qu'elle est venue toute seule en Belgique, elle a fait toutes ses démarches vraiment toute seule, c'est vraiment admirable. Et pendant, c'est vrai que pendant toute la guerre, son mari a été... assassiné très très vite, enfin arrêté mais assassiné quasiment sur place aussi très vite, donc c'est, elle s'est retrouvée seule très très vite, et bon, on le disait, même avec le mari elle était très indépendante aussi, mais donc voilà, toute sa vie elle l'a vécue toute seule, en faisant à son idée ce qu'elle avait envie, quoi, et de venir en Belgique, et la manière dont elle a géré sa vie de couple, et après la manière dont elle est rentrée dans la résistance et dans les camps de concentration aussi, où elle a systématiquement, enfin là aussi elle a fait des petits, elle a pris des initiatives, elle a fait des petits trafics pour aider les uns et les autres comme elle a pu, en fait.
Oui. Elle a développé une stratégie, elle s'est occupée de la vendrie, je crois.
Oui.
Et alors, grâce à ça, elle pouvait rencontrer plein de gens. Et donc, elle passait relais d'informations dans le camp. Donc, même quand elle était dans une situation terrible, où il n'y avait pas beaucoup d'espace, elle a tout de suite compris qu'elle devait développer des stratégies pour pouvoir survivre. Et tout en restant en lien avec les autres prisonnière comme elle. Et donc là je trouve aussi qu'elle a toujours ce sens du collectif, elle a toujours ce sens d'essayer de voir comment on peut améliorer le peu d'amélioration auquel on peut apporter. Et elle le dit souvent, c'est grâce à ça qu'elle a résisté, qu'elle a continué à vivre, parce que c'était terrible de vivre dans ces camps d'extermination et de concentration.
Le titre « L'audace de vivre », c'est vraiment une phrase qu'elle a dite elle-même, et je pense que ça résume un peu, c'est une espèce de philosophie du bouquin, en fait, aussi. C'est qu'elle dit qu'il fallait vivre avec de l'audace, en fait. Pour survivre avec de l'audace, en tout cas, à ces camps de concentration. Voilà, c'était sa philosophie à elle. Mais toute sa vie, je pense qu'elle a montré cette audace, en fait.
Oui, et puis cette femme, elle a perdu son mari parce qu'elle a été arrêtée pendant la guerre, mais elle a aussi perdu ses enfants, entre guillemets, dans le sens où ses enfants ont été des enfants cachés. Elle a compris qu'il y avait un risque aussi pour eux, et elle les a placés pour qu'ils soient sauvés, en fait. Donc elle ne savait pas son destin à elle. Elle ne connaissait pas le futur de son destin, ni le futur de ses enfants. Donc ce n'est pas facile, cette période. À mon avis, c'est dur aussi comme récit, parce qu'on voit qu'il y a des choix qui sont posés, et ces choix, ce n'est pas des choix faciles à faire. Maintenant, on les regarde comme ça et on dit oui, ok, mais quand on est une mère et qu'on doit dire oui à une personne qui vient chercher sa fille et la placer, et puis son fils et la placer, et le placer, c'est quelque chose qui est très 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 dur à imaginer, en fait, aujourd'hui. Et c'était entre guillemets pour les sauver, mais est-ce qu'elle serait sauvée? Au début, elle le sait pas, quoi. Et je dois avouer que le retour de la guerre est quelque chose qui m'a fort marqué aussi dans son récit, parce que je trouve que elle est revenue, comme beaucoup. Il fallait tout reconstruire ici. Elle devait se reconstruire elle-même. Elle devait se refaire une santé. Elle devait retrouver ses repères, et tous les repères avaient bougé. Rechercher ses enfants, mais leur donner un toit, leur donner un revenu, veiller à ce qu'ils soient bien. Et elle ne parlait pas suffisamment bien le français que pour vraiment se faire comprendre et se faire aider. Et donc là, on voit aussi que par rapport à l'administration et par rapport à tous les secours qui venaient juste après la guerre pour, entre guillemets, soi-disant régler administrativement le retour des prisonniers et des prisonnières, eh bien, elle a dû se débrouiller, elle s'est pas fait comprendre, on l'a mal comprise, on l'a mal conseillée, elle a dû se battre pendant des années pour retrouver ses droits à une allocation de prisonnière, de faire reconnaître sa place dans la résistance. C'est un nouveau combat qui nous choque. On s'imagine que, revenant dans les trains et repéré par la Croix-Rouge et par les réseaux de solidarité juifs pour les prisonniers qui revenaient, ou les prisonnières qui revenaient des camps, ça devait couler de source, tout le monde devait être à leur service. Elle s'est promenée avec les pantalons et le vêtement de prisonnière de guerre pendant des semaines, avant que quelqu'un lui jette une blouse en lui disant « Madame, habillez-vous », enfin voilà, elle n'avait pas d'argent et elle devait presque quêter son alimentation. Elle avait des réseaux, enfin, elle savait où elle pouvait aller. Mais avant de pouvoir reconstruire sa famille, accueillir ses enfants de manière digne et dans des conditions de vie normales, elle est passée par une période de galère qui est assez dure à lire et à comprendre.
Et est-ce que ça, ça a été le cas d'une majorité de femmes aussi? Est-ce que c'est représentatif ou
c'est difficile à dire, mais si, en fait, quelqu'un qui ne comprend pas ou qui a du mal à comprendre les nuances du formulaire administratif qui va lui donner le droit à avoir une allocation de prisonnière et d'avoir droit aussi à son indemnité de résistante. Pour ça, il faut bien comprendre, il faut savoir lire et écrire, évidemment, mais il faut aussi comprendre la langue administrative. Et là, elle se faisait aider, mais la communication n'était pas toujours facile. Et je crois que en deuxième lieu, qu'elle s'est rendue compte que le formulaire avait été mal rempli par la personne sur laquelle elle avait fait miser sa confiance, donner sa confiance. Et c'est donc quelqu'un qui a dû tout le temps se resituer dans son projet et face à l'administration aussi. Et donc, moi, je trouvais que cette période-là, je crois qu'il doit y avoir des gens qui sont restés comme ça, un peu en marge de tout le système d'aide et de secours. Et je crois que ceux qui sont revenus ont eu du mal à se réintégrer ont eu du mal à retrouver une vie normale. Et elle fait partie un peu de ce groupe-là, en tout cas.
Mais c'est pour ça que toute la vie communautaire a été vraiment salutaire, en fait, pour ces gens aussi. Il y en a beaucoup, il y en a énormément qui étaient comme ça, dans la nature, tout seul, en fait, tout seul, sans savoir du tout où aller. Évidemment, il y en a eu beaucoup. Mais c'est pour ça que elle, justement, elle a vraiment vécu ça en allant dans le groupe, quoi, en restant ensemble avec les autres juifs et avec les juifs communistes en l'occurrence. Il y a eu d'autres groupes aussi, mais donc la solidarité juive qui était communiste, c'est elle qui a vraiment aidé ces gens à se retrouver. Et donc ils appartenaient fondamentalement à cette association qui les aidait, quoi. Même si, justement, juste après la guerre, la solidarité juive permettait de jouer ce rôle d'accueil pour plein de gens qui n'étaient pas communistes non plus. Ou bien alors ils l'étaient tous par enthousiasme, parce qu'on les aidait. Mais... au départ, ils n'étaient sans doute pas communistes, mais ils l'ont été parce que cette association-là les aidait. Voilà. Et là, elle a aidé énormément de gens. Je ne sais pas combien de personnes, mais je pense au moins 1000 personnes. Enfin, je m'avance peut-être, j'en sais rien. Mais énormément. En tout cas, ils ont créé un tas d'activités aussi après la guerre. Il y avait une école de yiddish, des choses comme ça. Une école de yiddish. Il y avait plein de choses. Hein. Il y avait un vestiaire où ils allaient se loger. Il y avait de l'aide qui venait en fait de l'Amérique par le Joint, une association qui est de bienfaisance d'une certaine façon, mais juive, qui les a aidés. Il y avait une cantine aussi. Donc il y avait quand même une série d'aides sociales qui se sont mises en place dans la communauté juive et par cette solidarité juive qui avait, comme ils avaient été très actifs déjà dans la résistance pendant la guerre, du coup c'était les premiers qui se sont installés sur la place publique pour aider les gens. Donc c'est vrai que si tout le monde d'abord le communisme juste après la guerre avait le vent en poupe. Oui, hein, le rôle dans la résistance, etc. Donc, je veux dire, beaucoup de gens étaient communistes à l'époque. Mais donc, voilà, donc même si tout le monde n'était pas tout à fait impliqué au départ, ne l'avait pas été avant la guerre, etc., ils se sont quand même retrouvés tous au sein de la solidarité juive. Donc, oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de juifs qui ont été comme ça isolés et complètement démunis. Mais c'est pour ça sans doute que le besoin de se retrouver en tant que dans une communauté a été d'autant plus important.
Oui, donc ce que tu signales, c'est qu'elle va participer vraiment à une association qui va se développer dans l'immédiate après-guerre et qui va ressouder les liens qui étaient fort distendus et créer cette solidarité comme tu parles. Donc, et cette association va s'occuper des enfants, enfin va développer plein d'activités et encore pignon sur rue aujourd'hui. Hein, donc, et on voit bien que c'est une dynamique qui est forte aussi. Je crois que ça c'est clair aussi que cette identité forte fait en sorte qu'on peut se retrouver et on peut s'entraider et on peut se soutenir mutuellement. Mais elle n'a pas eu facile avant. Vraiment, ça n'a pas été un long fleuve tranquille.
Et là, je voulais aussi en revenir sur... T'as dit qu'elle avait fait des choix fondamentaux. Oui, mais tout le temps, en fait. Et moi, c'est aussi pour ça que ça m'a tellement intéressé personnellement son histoire. C'est que je pense que ces choix fondamentaux, j'en suis encore l'héritière. Le choix fondamental de militer au Parti communiste... Au-delà des histoires de parti, d'ailleurs, donc de choisir cette option-là en tant que juive, parce qu'il y avait plusieurs options possibles. On pouvait émigrer aux États-Unis, choisir l'option capitaliste, finalement, aussi. On pouvait émigrer en Israël et donc choisir l'option sioniste. Là, elle a choisi l'option universaliste. Donc c'était ça, et c'était un choix très 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 dur, je pense, même si beaucoup de juifs l'ont fait à l'époque. Elle aurait pu aussi émigrer à Moscou, par exemple, où il y avait le cœur de la révolution communiste. Bon, elle est venue en Belgique, mais avec ces idéaux-là. Et c'est vrai que, pour le judaïsme et tout ça, c'est aussi des grosses histoires et des gros choix fondamentaux qu'elle a fait à ce moment-là, et qu'il faut sans doute comprendre. la résistance. Ce qui est important, c'est que à l'époque, ces juifs qui s'impliquaient dans le Parti communiste, pour eux, ils étaient juifs de fait. Ils parlaient yiddish, etc. Mais ils étaient actifs au Parti communiste. Mais est-ce que c'était en tant que juif ou est-ce que c'était en tant que communiste? Pour eux, l'important c'était leurs idéaux. Donc ils étaient juifs, mais leur idée c'était d'être communiste. C'était pas si facile que ça d'être accepté comme ça au sein du parti communiste lui-même, puisque il représentait quand même une espèce de groupe, une communauté comme ça qu'on n'a jamais si facilement accepté. Donc c'est vrai que la MOI, donc en fait le mouvement ouvrier. Immigrés, donc MOI, c'est le mouvement ouvrier immigré, faisait partie du Parti communiste, en fait, donc il y avait plus ou moins 40% du Parti communiste qui appartenait à l'immigration, en fait. Et donc, il fonctionnait de manière indépendante du parti, mais à un certain moment, le parti a voulu intégrer tous ces gens aussi dans le travail du parti, en se demandant ce que c'est que ces immigrés qui font leur boulot de leur côté, c'est ça que je veux dire. Et tant qu'ils étaient à la MOI, donc avant la guerre, tant qu'ils étaient à la MOI, ces juifs-là, ils n'étaient pas en tant que juifs, en fait, ils étaient en tant qu'étrangers, en tant que polonais, en tant que bessarabiens, etc. Ils ne se reconnaissaient pas encore en tant que juifs. Donc c'est vraiment... Donc, c'est ça que je voulais dire. Avant la guerre, ils étaient juifs, mais ça n'avait pas d'importance pour eux, en fait. Ce qui était important pour eux, c'était d'être communistes. Et c'est vraiment la guerre qui les a fait comprendre qu'ils étaient juifs et qu'ils étaient menacés en tant que juifs, en fait. Et donc, si eux ont été actifs dans la résistance, c'est sans doute en tant que communistes, à vrai dire.
Tout à fait, oui.
Mais bon, évidemment, ils se sont tournés sur le danger qui les menaçait, eux, vraiment, personnellement. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont devenus juifs, d'une certaine façon, aussi, quelque part. Et donc, c'est une position juive qui est très, très compliquée, en fait, à tenir aussi, parce que c'est vrai que même, du coup, la solidarité juive, née de la résistance, elle est transbahuté entre l'idée d'être ou bien communiste et universaliste, mais juive quand même. Voilà.
Oui. Ce ne sont pas des situations faciles et c'est complexe. En fait, c'est des strates qui se rajoutent et c'est clair que devoir gérer ça, ça ne doit pas être de... pour rester en harmonie et mettre tout ça en tension, ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours. C'est vrai que je ne crois pas que la société était antisémite aussi, donc ils ont dû aussi être affronter ce regard très raciste et antisémite. Hein. Ce n'est pas pour rien que le MRAC s'est né au lendemain de la guerre, hein, donc 40-45. Donc la guerre n'a pas effacé cette tendance dans la société belge ou autre. Et donc, c'est quelque chose auquel ils ont été confrontés et qu'ils ont dû gérer et intégrer.
Oui, et qui n'est pas, comme tu dis, qui n'est pas mort avec la guerre non plus.
Et qui n'est pas mort du tout avec la guerre, non, du tout.
Comment, après les années, ça a été effectivement très difficile, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Comment votre papa a retrouvé sa maman aussi? Comment ils ont vécu après, par la suite? Parce qu'on a dit que ça avait été un peu compliqué, après...
Oui, alors, pour ma grand-mère, je pense que... Enfin, son histoire, sa vie, ce qu'il y a eu d'important dans sa vie, et ça, elle le dit très bien... même si effectivement elle en parle après, mais pour elle sa vie elle terminait à Auschwitz, quoi. Je dirais là, après c'est une autre vie qui commence d'une certaine façon, mais qui n'a pas d'intérêt pour elle dans son récit, en fait. Donc quelque part, elle est morte, elle a tout donné à Auschwitz. Et du coup, oui, c'est vrai qu'elle a retrouvé ses enfants. Bon, alors, ils ont vécu dans des conditions assez misérables. Hein, ce qui est aussi quand même exceptionnel. C'est vrai que c'était particulièrement dur, ce qu'a vécu ma grand-mère. Elle était seule et elle a plus travaillé non plus. Et donc, elle a travaillé un petit peu justement à la solidarité où elle a distribué des vêtements, des choses comme ça. Elle s'est occupée du vestiaire. Mais après, elle a été très très malade en fait après la guerre et elle était d'hôpital en hôpital et puis à un certain moment elle a quand même reçu une pension de victime de guerre et de résistante qui lui a permis de vivre confortablement au fur et à mesure des années mais voilà elle a plus travaillé plus rien du tout et alors par contre, voilà, là, c'est l'histoire de la solidarité qui commence, je pense, pour mes parents, puisque la solidarité est devenue vraiment une association culturelle, familiale, mouvement de jeunesse, mouvement de vieux, enfin, un tas de trucs qui n'est pas qu'une association culturelle, puisqu'il y a quand même toujours cette dimension du militantisme. Moi, je dis carrément que c'est une synagogue, en fait. Synagogue dans le sens, lieu de, parce que c'est aussi ce sens-là chez les juifs, en fait, même si on n'est pas religieux, dans le sens où on vient se réunir, dans le sens du lien, vraiment. On vient se réunir et on vient discuter. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions, de réflexions, et c'est ça le militantisme, en fait, c'est de ne pas arrêter d'être vigilant, de ne pas arrêter de réfléchir à ce qu'on est, à la société, à la mémoire, à plein de trucs, et bon, d'être actif aussi, éventuellement. Et donc, mes parents ont été très, très piliers de cette association, quand même, qui existe toujours.
Et qui s'appelle, j'ai bien compris que
c'est l'UPJB,
juif de Belgique. Donc, qui effectivement existe toujours et justement elle reflète bien ce que vous disiez comme choix d'être plutôt universaliste plutôt que d'avoir cette vision ouverte aussi.
Oui, tout à fait. Mais maintenant, la question, c'est de le vivre dans la durée, en fait. Moi, je pense qu'on a été vraiment les enfants de la résistance. Mais alors, ça tient sur une ou deux générations. Mais je ne sais pas si ça va tenir encore tellement longtemps. Parce que ce projet d'être juif progressiste, c'est un projet magnifique, en fait. Mais en même temps, c'est peut-être un petit peu contradictoire dans les termes. Enfin, c'est compliqué. C'est une histoire compliquée.
L'association fait un travail remarquable, hein, faut quand même le dire. Ils prennent des positions très fortes. Ils sont très engagés dans la société d'aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ouvrent au questionnement et ils continuent à avoir ce lien même ouvert au-delà de la communauté juive, entre guillemets, puisqu'ils accueillent tout le monde.
Mais avec tout ce questionnement, toutes ces contradictions et toute cette manière dont on est écorché, même dans nos relations personnelles, puisque c'est quelque chose de très très familial, en fait, le PJB, et avec des disputes, des jeux de pouvoir, c'est très très dur, en fait.
Culturellement, c'est aussi très fort, hein, l'UPJB. Politiquement, c'est une association très forte, mais aussi culturellement, je trouve le travail culturel qui est fait, avec la transmission dans les nouvelles générations, peut-être plus maintenant, mais il y a quand même des générations comme Henri Goldsmann, etc.
Oui, mais les jeunes continuent en fait à fonctionner et à être toujours aussi attachés. Mais bon, je pense que, enfin, c'est sans doute pour ça aussi pour moi que c'était important d'écrire le bouquin à un certain moment, pour me positionner aussi par rapport à l'UPJB, pour que ça existe encore, sûrement, mais parce que c'est pas si facile que ça, à vivre au-delà des générations, puisque c'est vrai qu'on est très fort lié quand même, enfin, en tout cas, moi encore, à la guerre, malgré tout. Je pense que c'est de la résistance. C'est de la guerre et donc de la mort, malgré tout, dont est née cette association, quoi.
Bien, je vois que le temps file, qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage, pour l'avoir fait, l'avoir écrit, l'avoir mis à disposition du grand public. Comment peut-on se procurer le livre ?
Au Carop, il n'y a pas de souci. Sur le site du Carop, vous pouvez commander par Facebook. Et donc, ça s'appelle...
L'audace de vivre, récit de Leïka Beigler Bubinder, immigrée juive bessarabienne, militante communiste en Belgique.
Et voilà. Donc le site du Carop, c'est www.carop, donc
carhop.be. Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire. Voilà.
Voilà, et donc je vous conseille vraiment de vous procurer cet ouvrage à mettre sous le sapin ou pas, mais de le lire. Merci beaucoup. J'ai vu aussi que vous faisiez parfois des conférences, des interventions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu enfin, que vous aviez présenté en public le livre aussi. Donc,
il y aura une présentation dans une librairie qui s'appelle Claudine à Wavre, mais en janvier.
Ok. Voilà. Donc, si vous me communiquez, je peux le mettre sur le site aussi de la radio. Merci beaucoup, en tout cas, Catherine Bubinder et Marie-Thérèse Kounen, d'être venues dans ces promesses de l'eau pour présenter ce livre. Donc, L'audace de vivre. Aux éditions Collection Récits de vie du Carop. Merci beaucoup. Et nous, on se quitte. On va passer un morceau d'un autre groupe militant qui s'appelle le groupe d'action musicale. Et c'est La Guerre. Je vous propose d'écouter ça.
On croyait que c'était la dernière, on grandit en criant plus jamais. Détestons les salauds qui l'espèrent, n'allons plus leur cueillir de laurier. Tant d'épaules si rondes et tant de dos si doux, écrasés, déchirés par l'acier dans la boue. Tant d'amants, tant d'amis, tant de trains sont partis, tant de mains, de regards. Tant d'oubli, écœuré, dégoûté, des outils à tuer, nous avons voulu croire qu'un refus suffirait. À tant et tant crier, je ne veux plus y toucher, nous nous sommes laissés désarmer. Nous allons par les rues, les samedis sans souci, oublier pour un soir le retour des lundis. On nous gave d'images, de spectacles inouïs, où le regard se perd ébloui. Mais le sang c'est de l'or, et l'or court encore, et le sang coulera tant que l'or courra. Et les empires ont faim, l'appétit leur revient, les peuples sont toujours au menu du festin. Pendant que nous rêvons partout de divisions, armées blindées, casquées se préparent au départ. Ils s'entraînent à viser, ils s'exercent à tirer, sur leur cible ils ont peint nos portraits. Pour faire tourner encore leurs industries de mort, ils viendront nous chercher un matin de juillet, nous pousser en troupeau, les fusils dans le dos, aux lointains abattoirs, massacrer nos égaux. Alors adieu nos rêves, si amers à nier, nos scrupules n'ont sauvé que qui veut attaquer. Et ramassons sans pleurs, librement, sans effroi, les fusils mitrailleurs pour nos propres combats. Toi si belle, vous aussi mes amis, ouvriers, paysans, travailleurs, étudiants, ne laissons plus les armes aux tueurs de métier, prenons-les amoureux et perdus de la paix. Et gardez vos clairons et vos marches de fer, vos grades, vos tambours ne nous sont pas nécessaires. Si on sait que défendre une flûte légère doit suffire à rassembler nos frères.